Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Eh bien voilà, il est 18h et aujourd'hui on reçoit Jonathan Savard, président du SAROS. Il va nous expliquer tout ça, qu'est-ce que c'est que le SAROS, etc. C'est important. Hein. On est sur CFAC, il est 18h, on est le lundi, je ne sais plus combien d'avril.
Le 6 mai.
On est le 6 mai, voilà, donc je suis un peu en retard, on est le 6 mai. Il fait super beau, c'est le printemps, un temps magnifique sur le campus, enfin voilà. Et il nous a proposé, Jonathan, 4 chansons. Ben, on va commencer par la première. Hop, je pousse mon petit bouton, voilà, auxiliaire, voilà, je pousse le petit bouton. Et la première, c'est une... vous allez voir, c'est une super chanson, ça s'appelle « Tout le monde en même temps ». Voilà. C'est Louis Jean Cormier, voilà, super chanson, Ça a été la première chanson proposée pour cette petite programme pendant une heure d'émission par Jonathan Savard, qu'on a donc le plaisir de recevoir, que j'ai le plaisir de recevoir. Hein, on peut même se tutoyer parce que on se connaît, on va pas faire les hypocrites parce qu'on est à la radio et tout, on se voit. Non, on se connaît, Jonathan et moi. Je suis super content de te recevoir, Jonathan.
Oui, aujourd'hui. Merci beaucoup Bruno pour l'invitation. Je suis très content aussi d'être invité à ton émission. J'ai écouté plusieurs épisodes. Très bonne émission.
Mais merci.
C'est vraiment excellent. Donc je suis content d'y contribuer moi aussi avec toi.
Alors le Sarus, c'est quoi le Sarus? Oui. Je ne sais même pas si je prononce bien Sarus.
Oui, c'est le Sarus, exactement. Il y a des gens qui disent le Sarus. Officiellement, c'est le Sarus. Donc, c'est le syndicat des auxiliaires de recherche et d'enseignement de l'Université de Sherbrooke que j'ai l'honneur de présider depuis maintenant 2019. Et nous sommes donc l'instance qui défendons les intérêts et les droits des auxiliaires de recherche et d'enseignement de l'Université de Sherbrooke, qui négocions la convention collective, on en parlera, mais qui aussi s'assure du respect de son application au jour le jour pour les conditions de travail des auxiliaires de recherche et d'enseignement à l'Université de Sherbrooke, et qui s'assure également d'organiser des activités, on en parlera, on organise également toutes sortes de choses pour nos membres, les auxiliaires de recherche et d'enseignement.
Ces auxiliaires, c'est à partir du deuxième cycle, si j'ai bien compris.
Non, tout le monde peut être auxiliaire de recherche et d'enseignement à Sherbrooke.
Y compris au premier cycle, donc.
Exactement.
D'accord.
C'est ce qui est d'ailleurs
alors,
mon cas.
Alors, explique-nous un peu comment ça fonctionne. Comment on devient auxiliaire pour un étudiant qui se demande comment on peut devenir auxiliaire de recherche?
Oui, bien, c'est une bonne question parce qu'il y a plusieurs postes qui ne sont pas affichés au niveau des auxiliaires de recherche et d'enseignement. La première porte d'entrée, c'est les postes qui sont affichés. Donc, les postes de plus de... les contrats de plus de 35 heures, il y a une obligation d'affichage dans la convention collective, justement pour les rendre plus accessibles au plus grand nombre. Donc, il y a un site web qu'on peut visiter, auxiliaire de recherche et d'enseignement à l'Université de Sherbrooke, offre d'emploi. Il y a un site web, on se connecte. Puis là, on peut voir l'ensemble des offres d'emploi. Il faut le visiter souvent parce que selon les facultés, il y a toutes sortes de périodes d'affichage pendant l'année. Donc, il y a des contrats d'auxiliaire de recherche, de correcteur, de surveillance également, d'examens qui sont disponibles. Mais il y a aussi beaucoup de plus petits contrats ou de contrats successifs à la suite de l'autre qui sont disponibles directement auprès des professeurs. Donc, si vous avez un professeur dans un cours ou même dans votre département et que vous avez un intérêt pour la matière sur laquelle il travaille, ça vaut la peine d'aller le voir pour lui demander s'il a besoin d'un auxiliaire de recherche parce qu'ils ont des budgets pour ça. Puis, il y a beaucoup de postes qui ne sont pas affichés qu'il faut aller chercher directement, justement.
D'accord. Ouais, donc, il faut y aller au charbon, quoi.
Exactement. Il faut y aller, il faut oser. C'est sûr que surtout au premier cycle, des fois, c'est plus difficile, on est un peu plus gêné. Mais moi-même, je termine mon bac en droit au premier cycle, puis j'ai été auxiliaire de recherche dès le début de mon bac. Faut pas se gêner pour aller chercher des contrats, aller le demander. Puis des fois, peut-être qu'il n'y aura rien maintenant, mais que la personne va se souvenir de l'intérêt. Puis,
Bon, je suppose que les profs, de toute façon, ils sont enclins à bien accueillir ce genre de demande, je pense aussi.
Ben oui, puis c'est quelqu'un qui est intéressé, qui démontre un intérêt à la recherche. Le prof va toujours être content de ça, puis ils ont des budgets à chaque année pour ça. Les profs ont beaucoup de recherche, ils ont besoin de gens pour les soutenir. Donc oui, c'est vraiment apprécié. Puis il y en a que trois cycles, donc premier cycle, deuxième cycle, troisième cycle. Non seulement des auxiliaires de recherche, mais aussi des contrats pour faire la correction également. On peut s'informer auprès de la faculté. Des contrats pour faire de la surveillance d'examen, des contrats d'auxiliaire d'enseignement pour aider les enseignants dans la prestation de leur...
D'accord, on peut aider les enseignants, d'accord.
Oui, puis j'ai
de
eu la chance...
De quelle manière un peu?
J'ai eu la chance de le faire même à la faculté de droit, où j'ai même enseigné le cours de recherche documentaire 2, qui est un cours où la faculté nous permet de l'enseigner de A à Z. Donc, on part du matériel, on a le matériel de la faculté, on a des consignes précises, on est très encadré comme c'est le premier cours qu'on donne.
Bien sûr, oui.
Mais c'est vraiment nous qui faisons la prestation d'enseignement en classe, qui faisons la correction également, l'ensemble de l'œuvre. Puis ça, c'est une opportunité que j'ai eue cet hiver, et c'en est une opportunité d'auxiliaire de recherche et d'enseignement. Puis, il y a beaucoup de cours aussi, notamment, par exemple, je pense à l'école de gestion ou, par exemple, un cours de finance, bien, il va avoir le cours qui est donné par le chargé de cours. Puis, à chaque semaine, il y a un laboratoire, il y a des exercices qui sont animés par un auxiliaire d'enseignement.
D'accord.
Justement, puis qui permet d'avoir une première expérience.
D'accord. Alors, ce syndicat, pourquoi? Il est arrivé quand? Qu'est-ce qui a motivé? Qu'est-ce qui a fait que les auxiliaires se sont associés dans ce syndicat?
Oui, bien, ça fait plus de 10 ans, ça fait plusieurs années que le syndicat existe. C'était pas naturel au début parce qu'on était étudiants. Il y a des gens qui disaient est-ce qu'ils devraient vraiment être syndiqués, ces gens-là. Mais on est aussi des travailleurs, on est aussi des employés de l'université. Et il y a eu une campagne de syndicalisation il y a plusieurs années avant que je sois là, où pas mal, toutes les auxiliaires d'enseignement, de recherche d'enseignement, la majorité des grandes universités de la province ont été syndiquées. Mm-hmm. C'est venu notamment de l'Alliance canadienne de la fonction publique et notre centrale syndicale initialement. qui a amené ce mouvement syndical-là dans les universités. Puis, pourquoi? Ben parce qu'il y a des droits à protéger, puis ça permet justement non seulement d'avoir des meilleurs salaires, des meilleures conditions de travail, mais également de défendre les auxiliaires de recherche et d'enseignement quand il y a des situations qui se produisent. Des fois, on voit des situations, c'est rare, là, mais il y a quand même des situations exceptionnelles qui peuvent se produire, des cas, par exemple, de harcèlement, de difficultés avec le professeur, par exemple, qui supervise l'étudiant. Et dans ces situations-là, ça va toujours beaucoup mieux quand on est accompagné d'un syndicat, oui. Parce que c'est intimidant au début, aller cogner soi seul aux ressources humaines de l'université, c'est pas facile. Mm. Nous, on est là justement pour accompagner les gens. On communique avec l'université à toutes les semaines pour gérer des dossiers. Puis ça permet vraiment d'accompagner les gens, alors que c'est souvent leur premier emploi dans le milieu universitaire aussi. Je pense que c'est important de bien démarrer. Puis,
Oui, parce que c'est pour beaucoup, c'est une première expérience professionnelle à proprement parler.
Mm-hmm. Ben oui, puis c'est la première expérience professionnelle. Puis c'est aussi une tellement bonne expérience professionnelle parce que il n'y a pas mieux que travailler à l'université. Quand on travaille à l'université, on est dans un milieu où, justement, les études sont encouragées. Donc, pour ce qui est de la conciliation études-travail, par exemple, c'est vraiment l'idéal de travailler dans une université puis de s'ouvrir des portes. Par exemple, si on pense à un auxiliaire de recherche, même si on ne s'intéresse pas à la recherche nécessairement puis qu'on veut arrêter au premier cycle, c'est toujours utile comme expérience sur le marché du travail. Puis si on s'intéresse peut-être à la recherche, bien, c'est le moyen d'essayer avant de passer au cycle supérieur. Ça permet d'essayer dès le premier cycle. Puis quand on est au cycle supérieur, bien, ça nous permet d'approfondir nos recherches. Puis,
Alors, on se consacre à quoi, syndicat, justement? Alors, tu m'as dit un peu les salaires, les conditions de travail. Tu peux m'expliquer ça un petit peu plus?
Oui, certainement. Bien, on a plusieurs volets, justement, au syndicat. Puis si tu veux, on pourra les élaborer davantage par la suite. Mais le premier volet, qui est évidemment celui auquel on pense en premier, quand on pense à un syndicat, c'est le volet des relations de travail qu'on appelle. Donc, c'est de négocier la convention collective. Qu'est-ce que c'est la convention collective? C'est un document qui contient l'ensemble des conditions de travail des salariés qui sont...
Alors ça, c'est un contrat entre le SARES et l'université, en fait.
Exactement. C'est un contrat qui est supérieur aux normes minimales de travail. Donc, on a évidemment la loi sur les normes du travail qui fixe les nombres d'heures, le minimum des normes du travail.
Ouais.
Et c'est un contrat dans lequel on négocie des choses en plus de ça. On pourra en parler davantage de notre convention collective en particulier, mais c'est un contrat qui dans lequel on a négocié, par exemple, le taux horaire, les salaires, comment la grille de salaire est faite, c'est premier cycle, deuxième cycle, est-ce que les années d'expérience sont considérées, vraiment toutes les conditions salariales, mais également les conditions de travail, comme les congés. Qu'est-ce qui se passe s'il y a un problème au niveau du rendement? Si on veut congédier un auxiliaire de recherche, comment il faut faire? Il y a des droits, cette personne-là a des droits. Toutes ces choses-là, c'est les conditions de travail sont déterminées par cette entente-là.
Mm-hmm.
Qui est une entente qui est négociée par le syndicat et l'université, puis qui est à la toute fin, justement, approuvée, qui est votée par les membres du syndicat.
D'accord.
Ce qu'on a fait récemment. Donc, c'est ce document-là qui établit les conditions de travail des membres du syndicat. Donc, tous les auxiliaires de recherche et d'enseignement sont automatiquement membres du syndicat, sauf s'ils se désistent.
Mm-hmm.
Et par la suite, une fois qu'on a signé ce document-là, ben, il faut veiller à son application.
Ah oui.
Parce qu'évidemment, l'université est grande, il y a 8 facultés, plein de départements, de centres, d'instituts de recherche. Donc, il peut y avoir des erreurs de bonne foi, des erreurs au niveau de l'application de la convention collective. Il peut également avoir des divergences de point de vue entre le syndicat, l'employeur, sur comment on applique tel article. Donc, moi, mon travail au quotidien, c'est de veiller à garantir l'application de la convention collective, donc à recevoir les appels, les courriels des membres qui nous disent hey, « je pense que telle chose, je ne suis pas sûr si ça respecte ou non la convention collective.
Ouais. »
Un cas classique, c'est les correcteurs. Souvent, les personnes qui corrigent les examens, ils ont un contrat de 20 heures, mais en réalité, des fois, ça prend le double pour faire la correction.
Ouais.
Il n'y a pas de corrigé qui a été fourni dans ce cas-là. Ça prend le double du temps. Bien, là, c'est là qu'on arrive. On va défendre le membre pour s'assurer que ses droits soient respectés.
D'accord. Et cette convention, elle se renégocie tous les ans? Il y a une périodicité?
C'est en général de 4 ans,
les
conventions collectives qu'on négocie pour assurer une certaine stabilité également, donc pour ne pas être toujours en période de négociation.
C'est ça.
Mais il y a toujours une flexibilité justement de la part du syndicat et de l'employeur pour la mettre à jour si...
Ça se passe bien?
Oui, ça se passe bien. Puis je dois dire, les relations de travail à l'Université de Sherbrooke sont très bonnes. Évidemment, on n'est pas toujours d'accord. Évidemment, si on n'est pas d'accord et qu'on n'arrive pas à régler notre désaccord, on peut avoir à aller devant, par exemple, un arbitre de grief qui est il est un décideur indépendant qui va avoir à décider de la situation.
D'accord.
Puis évidemment, on a des désaccords, ce qui est normal, ce qui est sain, mais je vous dirais que les relations de travail sont excellentes. Il y a d'autres endroits, d'autres milieux de travail où c'est très tendu entre le syndicat et l'employeur. Les gens se regardent à peine, ils ne sourient pas, ils se parlent par le biais d'avocats. Je vous dirais que c'est l'université, c'est une très bonne relation de travail. J'ai mon vis-à-vis au niveau du service des ressources humaines avec qui je parle très fréquemment. On s'entend très bien, puis je pense qu'on a...
Confiance.
Oui, il y a une confiance, exactement, c'est le bon mot. Vraiment, il y a une confiance mutuelle, puis il y a un certain pragmatisme, sans laisser de côté le militantisme, là, mais c'est de dire d'un côté puis de l'autre, on va essayer d'éviter d'avoir des demandes qui sont complètement excessives juste pour embourber la machine et tout ça. On essaie vraiment d'avoir...
une démarche contractuelle.
Mais c'est une démarche contractuelle, une collaboration mutuelle qui est bénéfique à l'un et à l'autre. Là. Donc, on est chanceux d'être à Sherbrooke.
Un modèle à l'allemande, en quelque sorte.
Oui, je connais moins les syndicats en Allemagne, mais peut-être tu connais plus que moi, mais oui, un modèle très collaboratif, puis très...
Ouais. C'est pas le cas à McGill, hein, je crois, où les auxiliaires de recherche ont été en grève là récemment.
Ben oui, j'ai entendu, j'ai pas vu les détails, mais j'ai entendu, justement, j'ai vu les auxiliaires de recherche d'enseignement de l'Université McGill qui ont dû faire une grève dans le cadre de la négociation de leurs conditions de travail. J'ai vu que ça semble s'être résorbé. Qui semble avoir possiblement eu une entente. Mais oui, parfois, c'est d'autres endroits où ils doivent se rendre à la grève, ce qui n'est jamais facile. Oui, ça permet de... La grève, parfois, ça peut être un beau momentum, hein, parce que ça peut permettre de mobiliser les gens, de mobiliser
oui,
les gens...
Oui, sur des questions précises et...
C'est ça, mobiliser les gens autour du syndicat, ça fait connaître le syndicat également, ça fait réaliser l'importance de nos droits, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de compromis aussi en échange d'une grève. Hein, on doit arrêter de travailler.
Oui.
Le syndicat a un fonds de grève pour payer les gens en attendant. C'est beaucoup de bouleversements. Donc, quand on peut l'éviter, on l'évite. Puis ici, on n'a jamais été en grève au syndicat des exiles de recherche d'enseignement de l'Université de Sherbrooke. Je dis pas que ça n'arrivera pas. C'est possible que ça arrive éventuellement. Cependant, pour l'instant, ça n'a jamais été nécessaire. Puis on n'a jamais eu non plus à faire de compromis sur les droits des membres parce que je ne veux pas dire qu'il ne faut pas faire la grève parce que ça bouleverse tout et qu'on va éviter la grève à tout prix en faisant des compromis sur les droits des gens.
Mm-hmm.
Non, c'est pas ça. C'est vraiment de dire à l'Université de Sherbrooke, pour l'instant, on a toujours réussi à bien négocier sans avoir eu à se rendre à la grève. Puis on espère que ça va rester le cas pour les prochaines années et qu'on n'aura jamais besoin de...
Il y a une volonté partagée d'une démarche constructive aussi bien du côté syndicat que du côté de l'administration, finalement.
Oui, je pense que oui. Puis l'administration en place, ça fait un certain temps qu'elle est là. Le recteur Pierre Cossette termine son deuxième mandat présentement.
Ouais.
Depuis que je suis président du CERS, on a eu deux vice-recteurs ressources humaines, Jean Goulet, qui a pris sa retraite, et Patrick Doucet, l'ancien doyen de la faculté de génie, qui est là présentement. Puis on a toujours eu une très bonne collaboration avec eux, mais c'est vraiment les gens au rectorat. Le service des ressources humaines sont là pour exécuter les décisions qui sont prises par le rectorat, par le conseil d'administration de l'université. Donc là, il y a une course au rectorat qui va avoir lieu dans les prochains mois, très bientôt.
D'accord.
Pour remplacer le recteur actuel qui en arrive à la fin de son deuxième mandat puis qui peut pas renouveler pour un troisième mandat. Selon les règles de l'université. Donc, ça dépendra toujours des futurs rectorats, du futur recteur, de la future rectrice, mais on espère que ça demeure le cas.
Il n'y a pas de raison que ça ne continue pas.
Non, il n'y a pas de raison.
Il y a un bon climat à Sherbrooke.
Oui, il y a un bon climat à Sherbrooke. Je pense qu'on est en région, puis ça paraît.
Oui, c'est vrai, ça compte. Alors, on va écouter une des chansons que tu as choisies. C'est la manifestation, justement.
Oui, j'essaie de trouver quelques chansons liées au syndicalisme de près ou de loin pour les auditeurs.
Donc, on va l'écouter, cette chanson, et puis après, on va parler de la convention collective et tout ça. Hein?
Excellent.
Allez, c'est parti pour cette chanson. Zoup là.
Sont arrivés en Westphalia, criant SOS Gaïa, accoutrés comme des hippies avec les yeux rougis. Cheveux longs et surplus d'armée, en bédaine et jouant du tam-tam, on se serait cru 30 ans passés pendant la guerre du Vietnam. Il y avait tous les clichés de l'époque, des granolas, des chemises en macramé, aux pieds poilus en dessous des bras. Dans grande majorité du cégep du Vieux-Montréal, tout cela pour manifester contre les multinationales. Et la main sous le grelottait en ce 3 jeudi de printemps. Et aux étudiants qui foxaient s'ajoutaient quelques passants. des marxistes, léninistes, des militants pour le pot, et une couple d'écologistes ont investi le spot. On écoutait le vieux cinglé qui se prenait pour Castro avec son képi d'officier et son couteau de Rambo. Et on a vite constaté qu'il lui manquait un bardeau quand il nous a proposé de faire un concours de limbo. Et des policiers sur leur bike pour contrôler la meute. Ça se déroulait pacifiquement sans trop écorcher le système. Et on scandait des beaux slogans contre les OGM. Quand soudain sont débarqués des types un peu extrémistes, sous de ninja cagoulés, se proclamant activistes. Comme des petits Che Guevara, ils ont pitché deux, trois pétards. Les bœufs sont rentrés dans le tas, je jure qu'ils ont pas veillé tard. Car en guise de protestation, les beatniks sont déshabillés pour faire un danse-auton. Les policiers en beau fusil ont sorti menottes et matraques et ont accroché les hippies à grands coups de jarnac, pendant que les écologistes pleuraient devant tant de sévices en implorant Jésus le Christ de stopper l'injustice. On entendait les chiens japper à travers le bruit des sirènes, bien étouffés par la fumée des gaz lacrymogènes. Au même moment, la gang de fils qui dansait à poil sous la pluie faisait comme un remake de Grease en version Hillbilly.
Ah voilà, la manifestation, hein, excellente chanson. Voilà, alors forcément, moi je viens d'un pays où les manifestations, ça fait partie de la culture locale.
Oui.
C'est la vie en France. Ouais, une année sans manifestation, ça n'existe pas, hein, c'est pas possible. Voilà, c'est vrai qu'on a un peu le sang chaud, on va dire en France. Ici, finalement, un peu à l'allemande, hein, ça.
Oui. Bon,
hein, contractuel, machin, tout ça.
Ouais.
Alors, cette convention collective, on va en parler, parce que tu l'as un peu esquissé tout à l'heure. Conditions de travail, salaire, etc. Qu'est-ce qu'elle comporte, cette convention collective?
Oui, bien, cette convention collective, j'en profite de le dire, elle est disponible sur notre site internet sareus.org, sareus.org, donc dans la section des documents officiels. Puis vous pouvez la consulter en tout temps, justement, si vous voulez valider quelque chose. Après, je vous encourage évidemment à pas hésiter à nous joindre. On donnera nos coordonnées, justement, en fin d'émission. Mais pas hésiter à nous joindre sur des questions, parce qu'évidemment, tout ça porte à interprétation. Il y a des détails, il y a beaucoup d'articles. Mais déjà, si vous voulez jeter un coup d'œil rapide, c'est toujours bon de connaître cette convention collective, de prendre le temps de la lire. Et la première chose que je suggère, c'est de débuter par la table des matières. Donc, si vous souhaitez lire votre convention collective un jour, regardez un petit peu la table des matières pour voir comment ça se divise, quelle section peut vous intéresser. C'est ce que je vais faire. Je vais essayer de vous en parler un petit peu chronologiquement des principaux droits que les membres SAREUS devraient peut-être, auraient avantage à connaître. Puis, encore sur le fonctionnement général, ce qu'il faut savoir, c'est que si la convention collective n'était pas respectée dans votre cas, généralement, c'est quelque chose qui va pouvoir se régler avec votre supérieur, avec la faculté. Souvent, il va y avoir une bonne collaboration. Ça peut être une simple erreur. Mais si jamais ça ne se règle pas ou si jamais vous ne voulez pas procéder par vous-même, à ce moment-là, vous pouvez toujours joindre le syndicat. Puis nous, ça va nous faire grand plaisir de vous aider, de regarder ça avec vous, de vous conseiller. Puis ensuite, nous, ce qu'on peut faire, en fait, on a deux choix. Quelqu'un qui souhaite garder son anonymat, par exemple, parce qu'il ne souhaite pas que ses supérieurs sachent qu'il a appelé le syndicat, bien, c'est tout à fait possible. C'est anonyme quand vous nous appelez.
Il y a cette possibilité, OK.
Il n'y a pas de... On ne divulgue jamais votre identité. Il n'y a aucun problème avec ça. On vous conseille. On vous dit qu'est-ce que vous pourriez dire, à qui vous pourriez dire, comment vous pourriez procéder. Mais si jamais vous n'y arrivez pas par vous-même, C'est là le moment où on a un petit peu pas le choix de donner notre identité. On vous demande toujours votre consentement avant, évidemment, mais le moment où on peut intervenir, c'est moi, je peux aller directement parler en votre nom au service des ressources humaines. C'est d'où le fait qu'à ce moment-là, on n'a pas le choix un petit peu de révéler son identité. Moi, je peux aller voir le service des ressources humaines au niveau des relations de travail, puis leur dire, ben moi, j'ai telle personne qui a vécu, vit telle situation en ce moment, comment on peut régler ça? Puis dans 99% des cas, ça va se régler comme ça.
Directement, à l'amiable.
À l'amiable, directement avec le service des ressources humaines. Puis dans un cas très, dans un très faible nombre de cas, on va devoir faire ce qu'on appelle un grief. Donc un grief, c'est une procédure un peu de type judiciaire où on va déposer un grief officiellement. On va d'abord en discuter avec l'université. Des fois, le dépôt d'un grief peut faire en sorte que l'université va le prendre encore plus au sérieux puis va encore mieux analyser le dossier. Puis si jamais on n'a toujours pas d'entente avec l'université, on peut l'envoyer en arbitrage. Donc l'arbitrage, c'est de dire, on va demander à un arbitre indépendant de trancher le grief. Puis c'est là que les avocats de l'université puis du syndicat vont intervenir. Moi, je ne suis pas avocat, mais on a des avocats justement qui vont intervenir pour aller défendre nos arguments devant l'arbitre de grief, justement à ce moment-là, qui va rendre une décision sur la chose. Mais c'est comme je dis, c'est rare qu'on se rend là, mais c'est pour vous expliquer le contexte global. À quoi ça sert une convention collective? Ça sert à définir les droits des salariés.
Et la possibilité de force de frappe, la force dissuasive en quelque sorte.
C'est ça exactement, c'est que c'est la convention collective, c'est pas une suggestion, c'est vraiment quelque chose, un document qui est formel, qui est obligatoire, qui doit être respecté. Donc c'est là pour établir ce qu'il y en est. Puis très souvent, ça, on peut régler les problèmes à l'amiable, mais on a quand même cette possibilité-là de déposer un grief si jamais
Jamais il y avait un conflit qui ne pouvait pas se régler à l'amiable.
Exactement.
Donc, on règle quoi dans cette convention? Donc, les salaires, les conditions de travail, par exemple, c'est ça?
Mm-hmm. Par exemple, exactement. Certains points plus techniques relativement au syndicat, peut-être juste pour informer les auditeurs, justement, le principe d'un syndicat, c'est que le syndicat est l'unique agent négociateur des salariés. Puis ça, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'un salarié, par exemple, un auxiliaire de recherche, ne pourrait pas aller à l'université puis dire... Moi, je vais être payé plus, seulement moi. Puis l'université ne pourrait pas dire seulement toi, on va te payer moins. C'est vraiment, quand on a une convention collective, c'est vraiment ce qui dessine nos conditions de travail. Parce que quand on se regroupe en syndicat, justement, c'est pour le but d'avoir la force du nombre, de dire, il y a une personne, pas une personne individuellement, mais il y a une organisation qui va négocier au nom de l'ensemble des salariés. Et ça établit les droits et obligations de chacun. Et il y a plusieurs points plus techniques relativement au syndicat. Par exemple, les cotisations syndicales, les critères relativement au syndicat, toutes des choses comme ça, un petit peu plus techniques. Mais qu'est-ce qui touche les gens plus concrètement? D'abord, peut-être le fait, la condition d'admissibilité pour être auxiliaire de recherche et d'enseignement, c'est d'être étudiant ou étudiante à l'Université de Sherbrooke. Il faut être à temps plein pour avoir le droit d'être auxiliaire de recherche en étant étudiant à temps partiel. Il faut obtenir une dérogation de la part de la faculté, une dérogation qui est accordé de manière normalement exceptionnelle. Ça peut varier selon les facultés. Et qu'est-ce qu'on a négocié dans notre convention collective? De nouveau, la dernière négociation, justement, c'était d'ajouter justement le fait que si on est réputé être à temps complet au niveau des prêts et bourses, bien, on va avoir le droit d'être auxiliaire de recherche d'enseignement sans avoir de convention collective.
D'accord.
Donc, je pense à quelqu'un qui aurait un handicap, quelqu'un qui serait enceinte. Toutes des situations comme ça qui permettent d'avoir des prêts. Les prêts et bourses sont notés une liste de situations dans lesquelles on est admissible, même si on est à temps partiel.
D'accord.
Donc, dans la nouvelle convention collective, on fait référence à ces situations-là pour dire si vous avez droit aux prêts, si vous êtes reconnu à temps plein aux prêts et bourses, même si vous ne l'êtes pas, bien, on va vous reconnaître à temps plein pour les fins de l'embauche. Donc, ça ouvre la possibilité à beaucoup plus de gens d'être auxiliaires de recherche et d'enseignement, même si ces gens-là n'utilisent pas à temps complet.
Oui, parce que ces personnes-là, avant, c'était un barrage, en quelque sorte.
C'est ça, c'était un barrage, puis l'autorisation de la faculté, la convention indique que c'est exceptionnel, donc c'était plus, c'était moins clair, justement, ça donnait un barrage, justement, à plusieurs personnes qui souhaitaient être auxiliaires de recherche et d'enseignement. Puis je ne vous cacherai pas qu'on aimerait ça même éliminer complètement, éventuellement, cette exigence-là du temps plein, parce que moi, je pense à des gens qui font des retours aux études, par exemple, qui sont sur le marché du travail, qui étudient à temps partiel, est-ce qu'on ne veut pas permettre à ces gens-là d'être auxiliaires de recherche?
Auxiliaires de recherche aussi, oui.
Puis peut-être de les encourager à poursuivre leur retour aux études, d'aller à la maîtrise, au doctorat, en leur initiant la recherche. Moi, je pense qu'on aurait beaucoup à gagner en assouplissant cette clause-là, mais reste qu'on a déjà pu l'assouplir lors de la dernière négociation. Parce que, évidemment, les conventions collectives, ça donne des droits aux salariés, mais évidemment, là, il y a l'employeur aussi veut se garder certains droits, donc c'est toujours une négociation.
Oui, c'est légitime, ouais.
Une négociation entre les deux. Puis ça, c'est un bon exemple d'article où on a négocié chacun d'un côté pour l'assouplir ou le durcir selon la position où on est.
Et parvenir à un compromis finalement acceptable pour tous.
Exactement. Un compromis acceptable, pragmatique, raisonnable, qui est au bénéfice de tous. Donc, je suis très, très, très fier de cette avancée-là.
Elle a été faite quand, là, cette dernière négociation, là?
L'an dernier.
L'an dernier?
L'an dernier, elle a été faite en 2023. Puis, vous voyez, on a signé la convention collective, justement, le 3 octobre 2023.
D'accord.
Donc, le 3 octobre 2023.
C'est tout neuf.
Oui, tout neuf. Puis, on l'a négocié au printemps 2023.
Ah oui, donc ça a duré quand même quelques mois.
Oui, ça a duré plusieurs mois. Je vous dirais environ de janvier à juin, on a fait la négociation en 2023. Mais quand même, c'était une négociation qui était courte comparée à beaucoup d'autres unités de travail où les conventions sont encore plus épaisses.
Ouais.
C'est encore plus complexe en raison de la nature des emplois. Pour nous, c'était une négociation très simple par rapport à beaucoup d'autres...
Les relations sociales, comment ça se passe un peu, justement, suite à cette convention ou même en dehors? Comment ça se passe, ces relations sociales, entre les différents partenaires qu'il peut avoir, les professeurs, les auxiliaires de recherche, les membres de l'administration? Il y a quand même pléthore de personnel dans cette université. Comment sont les rapports sociaux, les rapports hiérarchiques? Comment ça se passe dans cette université?
Ça, pour la grande majorité des gens, ça se passe bien. Évidemment, souvent, les gens développent même, les études de recherche d'enseignement développent même parfois des liens proches avec les professeurs parce qu'ils travaillent de près avec eux. Puis, c'est à la fois un bénéfice et un problème, je vous dirais. Parce que, par exemple, souvent, un étudiant va avoir son prof. Un étudiant au doctorat, ben, il va avoir son prof qui est son superviseur, son directeur de thèse au doctorat, mais son prof va aussi être son patron comme auxiliaire de recherche.
Oui,
par exemple, tu fais ton doctorat avec tel prof, puis ce prof-là, ben, il va aussi donner des contrats d'auxiliaire de recherche pour l'aider. Donc là, on se retrouve souvent avec une grande proximité, évidemment, parce que cette personne-là fait son doctorat avec le professeur, travaille comme auxiliaire de recherche, donc travaille beaucoup. Ça devient un collègue, un des principaux collègues de cette personne-là. Mais... il y a une relation souvent de double hiérarchie, c'est-à-dire que le professeur est non seulement directeur de thèse, mais aussi le superviseur de l'auxiliaire de recherche. Donc, des fois, ça peut créer des situations particulières où certains auxiliaires de recherche ne veulent pas nécessairement réclamer leurs droits. Lorsque, vous êtes étudiant en doctorat, puis on vous fait travailler plus d'heures que ce pourquoi on vous paye réellement. Il y en a qui disent, bon, je suis pas à l'aise avec ça, je suis déjà super occupé, je suis serré financièrement, moi j'aurais besoin d'être payé pour toutes les heures que je travaille. Mais en même temps, si je me plains au syndicat, si j'en ai parlé à mon prof, il est pas vraiment ouvert à me payer. Mais
oui.
Si je me plains au syndicat, qu'est-ce qui va arriver avec mon doctorat? Il va-tu être un aussi bon directeur de thèse au doctorat? Je vais savoir une bonne note au doctorat.
Il y a des craintes légitimes, oui.
C'est ça, il y a des craintes légitimes. Puis moi,
comment ça se gère, ça?
Il n'y a pas de solution miracle parce que moi, quand je reçois des appels, la majorité des gens veulent demeurer anonymes, puis je comprends. Donc là, moi, je leur donne des solutions, comment on peut essayer de régler la situation, comment on peut essayer d'expliquer la situation au professeur, à la faculté peut-être, qu'est-ce que des pistes de solution. Mais reste que si le professeur maintient sa position, on peut pas rien forcer un peu en étant anonyme. Donc, souvent,
il y a
les
toujours
gens...
un moment où il faut sortir du bois.
Oui, c'est ça, mais je vous dirais que souvent, les gens ne le feront pas. Justement, ils vont travailler plus, puis décider de pas le faire, parfois en raison justement de leur maîtrise ou leur doctorat, pour garder ces bonnes relations-là, qui normalement ne devraient pas s'envenimer à cause d'une plainte au syndicat, mais après, tout le monde est humain aussi, incluant les superviseurs. Là, donc, non, c'est ça, c'est des situations qui ne sont pas faciles à gérer. Des cas qu'il pourrait avoir, c'est pas très fréquent, mais quand il y a un cas d'harcèlement, de manque de respect, des choses comme ça, c'est toujours délicat aussi. Quand il y a des doubles rôles comme ça, on a quand même des ressources à l'université. On est en, un employeur, un gros employeur, donc ça a le bénéfice d'avoir des ressources. Je pense au bureau du respect de la personne de l'Université de Sherbrooke, dont je fais toujours la promotion, qui est une instance qui est habituée encore plus que nous, peut-être, à gérer les cas comme ça.
Les cas les plus durs, quoi.
C'est ça, les cas, les conflits, ces choses-là. Évidemment, eux autres, c'est pas eux autres qui vont faire respecter la convention collective. C'est notre rôle est complémentaire au leur. Mais dans les cas de conflits, de harcèlement, de discrimination, dans tous ces cas-là, moi, je suggère toujours de faire appel au bureau du respect parce qu'eux autres aussi, la démarche est confidentielle tant qu'on ne décide pas d'aller plus loin. Donc, des fois, juste les contacter pour avoir leur conseil, ça peut... Ça peut calmer les choses. Oui.
OK. Allez, on continue. Alors, une autre chanson. En berne des Cowboys Fringants, on va écouter cette magnifique chanson.
Les années 70 dans un Québec en plein changement où l'emblème de la fleur de l'île donnait un peu d'espoir aux gens. Mais quand je regarde ça aujourd'hui, je suis donc pas fier de ma patrie. Ça dort aux gosses d'un pangalo, le cul assis sur le statu quo. On se ravante de téléroman et le parc chaud les plus stupides se laissent en mourir sur le divan avec leur petit air quand en se voyant de la poutine. On se complète en médiocrité, bien satisfait de notre routine et du bonheur préfabriqué. Un petit gratteux me dit caissier au dépanneur. En ouais, le gros sort ton petit 2-8 millionnaire, c'est le bonheur. Je vais rêver le samedi qui va peut-être quitter son taudis. J'espère que jour mon dimanche a une chance sur 14 millions. En stationnement du casino, me torsir une balle dans la tête. Ayant tout plombé son magot, avec mes gros cœurs à la fête. Et le gouvernement s'en balance, se nourrit à même les gamblers en exploitant leur dépendance. Un peu comme le prêt un poster. Québec moderne, mais moi je mets mon drapeau en berne et j'emmerde tous les bouffons qui nous gouvernent. Si tu rêves d'avoir un pays, mais moi je te dis que t'es mal parti, t'as bien plus de chances de gagner à l'autre. Et pendant des années, un petit peuple de yes-men qui marchait les fesses serrées quand arrivait le four-man. Aujourd'hui, ça a un peu changé. Les gars sont tous fatigués, ça jase 3-4 autour d'une belle enchère dans le jeune père du zèle. On ne va pas se réjouir trop vite, on est encore des porteurs d'eau à la salle des gens de l'élite. Mais les pleins de marins comme c'est d'eau, quand le monde d'une grosse corporation, comme son usine en casse-pisse, ils ne demanderont pas ton opinion. Ils vont se laquer sans dire merci. Quelqu'un dans la rue, au pied d'un grand building en verre, il va passer inaperçu à la sortie des actionnaires. Ce qui compte pour eux, c'est les revenus, mais non les problèmes de l'affaire. Pas de ma faute si t'es un trou de cul. Moi, l'important, c'est que je peux faire être premier ministre, mais semblant qu'ils sont faits pour les pauvres gens. Alors qu'on sait qu'ils sont au service des fortunés et de leur business. L'environnement, la pauvreté, c'est pas des sujets prioritaires. On en entend pas beaucoup parler derrière les portes des ministères. C'est ça le Québec moderne, mais moi, je mets mon drapeau en verre, les gens d'air. Tous les bouffons qui nous gouvernent. Si t'es content de ce pays, mais sans mon homme, c'est ton avis. Tu dois être le PDG d'une compagnie. Que dans le Nord, il se passe de quoi de catholique. Que nos forêts sont mises à mort, ça jante dans l'opinion publique. Deux semaines et ça sombre dans l'oubli. L'histoire est morte et enterrée dans le parc La Véranderie. Il continue à tout raser, c'est ça le problème de ma patrie. Il n'y a personne pour s'indigner contre la fausse démocratie. On sert les riches et les rentiers, on sait qu'on est peuple des ignorants. On va donc rappeler son histoire et c'est que je suis les plaques de genre. J'ai encore un petit peu de mémoire. Québec moderne, mais moi je fais mon drapeau en verre. Les gens rêvent tous les bouffons qui nous gouvernent. Et c'est ça que ça fait une nation. Probable que tu sois assez con. T'es mûr pour te présenter aux élections.
Voilà, les cow-boys fringants sur les bouffons qui nous gouvernent, disent-ils. Hein, ils étaient un peu...
Ouais.
Enfin, voilà, c'est un peu chaud. Alors, les cow-boys fringants hein, qui ont réussi un gros exploit, là, parce que le dernier album avec les derniers titres enregistrés par Carl Tremblay Eh bien, il est rentré directement numéro 1 des écoutes sur les plateformes musicales. Il a battu Taylor Swift.
Oui, ça fait plaisir pour notre culture québécoise.
Oui, parce que quand même, Taylor Swift, c'est pas... Enfin, voilà quoi.
On aime Taylor Swift, mais elle manque pas de visibilité voilà. Autrement. Que...
C'est pas rien de réussir à l'étaler comme ça en hit parade. En même temps, c'est pas surprenant, les Cowboys Fringants. Énorme popularité dans tout le Québec. Enfin, moi, je me rappelle, bon, je venais d'arriver, il n'y a pas longtemps que j'étais arrivé ici. J'étais très frappé par toute l'émotion que ça avait soulevé le décès de ce chanteur.
Oui.
C'est là que j'ai mesuré le truc, mais c'est là qu'on le mesure aussi quelques mois après, quand sort cet album un peu posthume, en quelque sorte.
Ah oui.
Et qui fait un vrai carton sur les plateformes musicales.
Ben oui, dans nos sociétés tellement de plus en plus polarisées qu'on voit qu'il y a des gens comme ça qui font l'unanimité.
Qui rassemblent, qui font l'unanimité.
C'est incroyable.
Oui, on le voit d'ailleurs aussi au Brésil, où malgré un pays très divisé, etc., Madonna a réuni 1,5 million de personnes
incroyable.
Dans un concert absolument historique. Enfin, jamais personne n'avait réussi à faire un truc pareil. Et ce qui est génial, c'est qu'il y avait des gens qui venaient des favelas, comme des quartiers riches, de toutes les opinions politiques. Et Dieu sait que c'est tendu, la politique, au Brésil. Ouais. mais là, il y avait une espèce de consensus, d'unanimité. C'est chouette de voir que la musique est capable de rassembler les gens, effectivement, comme tu le dis. Les activités, projets du Sarus pour les prochains mois, c'est quoi à court terme, moyen terme et long terme?
Oui, certainement. Ben, au Sarus, ben, comme je disais, on a parlé beaucoup du volet des relations de travail, hein, comme je te disais, ce qui est la défense des droits, mais on fait beaucoup d'autres choses également. D'abord, peut-être le côté un petit peu plus ennuyant pour le commun des mortels, le côté administration. Faut pas oublier qu'on est une organisation à gérer, donc au quotidien, le conseil exécutif que je préside, on doit gérer les finances, la gestion administrative, l'organisation, les ressources humaines, on a toutes sortes de choses à gérer, les obligations réglementaires. Donc c'est vraiment le volet gestion d'organisation. Lourd, oui, ça peut être lourd, en effet, faut rien oublier. Moi, j'aime bien le volet administration, personnellement, j'ai fait un certificat là-dedans aussi. Donc j'aime bien l'administration, mais... C'est un volet qui est moins connu puis qui est plus invisible, mais qui est essentiel, par contre, au syndicat. Également, les communications. Avant de parler des activités, là, les communications, c'est quelque chose d'essentiel. Il faut se faire connaître des membres. Aujourd'hui, on fait de la com, justement.
Ouais.
On se fait connaître des membres parce que c'est essentiel. Tout le monde paye des cotisations syndicales, c'est obligatoire. Mais mon souhait le plus profond, c'est que les gens aient l'impression que, pas juste une impression, que ce soit réel, que ce soit un bon investissement pour les gens et pour que les gens puissent voir le retour sur investissement de leur cotisation syndicale, ben, ils doivent nous connaître. Ils doivent savoir qu'est-ce qu'on fait. Puis pas seulement nous connaître, si jamais pour...
Pour pouvoir savoir vers qui se tourner en cas de besoin aussi.
Ben c'est ça. Puis, tu sais, si jamais il n'y a jamais eu de besoin, ben on fait quand même toutes sortes de choses. Donc, c'est de pas seulement nous connaître en cas de problème, mais également quand ça va bien. C'est le défi au niveau notamment des communications. Donc, on fait une infolettre qu'on envoie quelques fois par session pour donner des nouvelles du syndicat, pour apprendre des choses aux gens. On a notre site Internet aussi, sarus.org, qui vous permet de voir toutes sortes de documents, notre équipe. Un de nos projets, justement, c'est de bonifier cet Internet-là à court et moyen terme, mettre plus de contenu. Ça, c'est quelque chose qu'on veut
faire. Que vous allez développer, oui.
Qu'on veut développer. Ça, c'est vraiment dans mes projets.
Les réseaux sociaux, peut-être aussi.
Oui, les réseaux sociaux également. On a une page Facebook, mais les réseaux sociaux, ça se développe à vitesse grand V. On est probablement plusieurs années en retard là-dedans. Donc, les pages Instagram, TikTok, on a une page YouTube également, mais qui est peu utilisée. Donc, le but, c'est vraiment de développer la communication du Sarus, puis je vais travailler là-dessus cet été aussi, parce que c'est quelque chose qui est essentiel, la communication entre le syndicat et ses membres. Oui. Communication qui doit être bidirectionnelle, dans les deux sens. On doit entendre les gens également, les écouter, connaître leurs préoccupations. C'est le nerf de la guerre. Et ça nous amène justement au volet des activités. Les activités, les événements qu'on organise au Sarus sont deux catégories. La première catégorie, c'est les événements plus formel, mais tout aussi important. Donc, nos assemblées générales, on en a deux par année.
Deux parents, d'accord.
Oui, deux parents. C'est prévu dans nos statuts et règlements. Donc, les statuts et règlements, c'est ce qui gouverne, c'est adopté, c'est un document officiel qui est adopté par les membres puis qui gouverne la vie associative du syndicat. Donc, comment les élections fonctionnent, qui est élu, comment on est élu, comment, quelles instances gouvernent le syndicat. Puis, sans entrer dans tous les détails, l'instance principale, c'est l'Assemblée générale où on prend toutes les décisions, on vote le budget, le plan d'action, on fait les élections. Et notre prochaine Assemblée générale, justement, aura lieu le lundi 13 mai à 12h.
Ah oui, c'est tout près, là. C'est lundi prochain. C'est pas lundi là, mais la semaine prochaine.
La semaine prochaine, exactement, à midi. Donc, vous pouvez nous joindre à l'adresse courriel sarheus@commercialisherbrooke.ca pour vous inscrire. Donc, ces assemblées-là où on donne des nouvelles du syndicat, on vote des choses, ça, c'est super important.
On peut les voir à la fois, c'est sur Internet ou on peut se déplacer? Enfin, c'est sur Internet,
je suppose? C'est en mode hybride. Donc, on a un volet en présentiel, un volet en virtuel. Donc, c'est au choix des gens.
Des gens, d'accord.
Donc, en mode hybride, c'est quelque chose qu'on... un format qu'on a depuis la pandémie puis qui permet à plus de gens de participer, virtuellement.
Donc, entre deux cours, même si là, ça s'est calmé un peu, là. Hein?
Oui, ça s'est calmé avec
l'été. Le campus est bien calme aujourd'hui, là.
Exactement, mais c'est ça. Sinon, même pendant les sessions, on essaie de faire ça entre 12h et 13h. Évidemment, les membres sont libres s'ils souhaitent, si jamais il y avait des débats qui étaient plus longs, mais on essaie toujours que ça tienne dans une heure pour permettre aux gens d'y assister en de leurs cours.
Oui.
Donc ça, ces assemblées-là, c'est important. On essaie de favoriser la participation des gens le plus possible. Les gens ont droit de vote. Le syndicat, je dis toujours, c'est pas une dictature, c'est une démocratie, hein, le syndicat. Donc, c'est important d'exercer son droit de vote.
De s'impliquer, quoi.
De s'impliquer, de s'informer. Et on organise également des événements plus festifs parce que
c'est
pour justement rejoindre les membres. Puis il y a beaucoup de choses qui se passent dans ces événements-là où on voit l'importance que ça a. On établit des liens avec les gens, on leur parle de manière plus personnelle que dans le cadre d'une assemblée.
Créer du lien social aussi entre les gens et avec le syndicat.
Exact. C'est ça, créer des liens sociaux des deux côtés, puis entendre les gens dans un contexte, c'est moins gênant, c'est moins formel.
Oui, forcément. Ouais.
Autour d'un verre, par exemple, on fait des 5 à 7, toutes sortes d'événements comme ça. Récemment, on a organisé un événement en collaboration avec Bistro Brain, qui organise des événements de vulgarisation scientifique sur le campus. On les commandite, ça a été voté en assemblée, ça a été proposé puis voté en assemblée. On a organisé un événement justement avec des présentations de vulgarisation scientifique, 4 présentations sur les luttes sociales d'hier à aujourd'hui. Donc, on organise toutes sortes d'événements plus festifs comme ça puis qui sont vraiment essentiels à la vie du syndicat. Puis si justement vous souhaitez vous impliquer au syndicat puis organiser des événements comme ça, n'hésitez jamais à nous joindre parce que on est toujours à la recherche justement de membres qui souhaitent s'impliquer dans leur syndicat. C'est ouvert, c'est disponible pour ça. Donc, n'hésitez jamais à nous joindre si vous cherchez un moyen de vous impliquer. Il y a toujours de la place. Puis, plus qu'il y a de gens motivés, plus qu'on va pouvoir organiser des activités.
Par sarheus.org, je suppose qu'on trouve d'ailleurs toutes les coordonnées.
Oui, il y a une section
Facebook,
pour nous joindre.
Un numéro de téléphone aussi, je suppose.
Exactement, il y a une section pour nous joindre sur le sarheus.org. Puis, avec un formulaire de contact, notre numéro de téléphone, notre adresse courriel. Notre bureau, même si on est souvent en télétravail, donc c'est mieux de prendre rendez-vous avant de se présenter au bureau.
Oui, forcément, oui.
Mais sinon, oui, toutes nos coordonnées sont là, puis il ne faut vraiment pas hésiter à nous contacter pour des questions, mais pour de l'implication également, parce que c'est important.
Super. Alors, on continue en musique, hein, avec la quatrième chanson que tu as choisie, Bigelow. Hein, ben on va l'écouter, vous allez voir, c'est surprenant. Mais à mon avis, ça devrait plaire. Ça vient. Ah, ouais. On entend une petite musique. On entend un peu de... Ça, c'est... Voilà. Mais la chanson arrive. Oui, ça n'a pas l'air comme ça, mais si, elle arrive. Là, on entend la vieille cassette qu'on vient de mettre dans le radiocassette. Non, c'est un truc de vieux. C'est... Bref.
Drapeau. Pourquoi je le vois brandi uniquement à l'étranger ou chez les fachos? Longtemps qu'il a pris la poussière, le mien ne m'a pas trop servi. Pourquoi ça me gêne moins quand c'est celui de l'Argentine ou bien de l'Algérie? Je réponds, je suis français, d'un air hésitant, comme si en douter devenait évident. Peu importe le bord, peu importe le camp, on m'a dit de détester le président. Je viens du pays où il fait toujours beau, mais aussi de celui où il pleut tout le temps. Dis-moi de qui je suis le descendant, des collabos ou bien des résistants? Autant de cons que de complexe. Si je pars, vous allez pas manquer. Mais à l'autre bout du monde, premier réflexe. Je cherche, il y a des Français. J'aime la France. Comme une tante avec qui je suis pas toujours d'accord, qui fait trop peu d'efforts, mais pour qui je chialerai toutes les larmes de mon corps à sa mort. T'as vu depuis combien de temps ça dure? Amour ou haine, c'est pas une mince affaire. La police, celle des sales bavures ou celle en première ligne à l'hyper cachère? Voir ailleurs, prendre du recul, essayer de couper la poire en deux. Quand on part en Inde, on se sent français. Quand on en revient, on se sent chanceux. Souvent, on trouve les réponses quand on les attend pas. Ici, c'est à celui qui mentira le plus sincèrement. Aux enterrements. Ça te fait bizarre, mais je l'aime ce pays. Celui qui me taxe et me couvre d'impôts. Celui qui paye pour moi la pharmacie, qui m'emmène gratuit voir la mer en colo. Son histoire, j'en connais ses horreurs, mais aussi sa puissance. Je suis pas responsable de ses erreurs, mais je dois faire avec ses conséquences. On fait connaissance, mais combien se connaissent? Faut qu'on progresse pour être honnête. Moi, la France, j'ai tendance à l'écrire avec un F. On fabrique à l'étranger si c'est moins cher. Et toi, tirer où si venait la guerre? On oublie l'histoire, on refait l'histoire. La paix au pied du mur de nos frontières. Mon padre vit en français, mes rêves en espagnol, est-ce que c'est grave? Et il écrit vive la France avec une faute d'orthographe.
Beaucoup de questions, peu de réponses. J'ai que les paroles d'une chanson. Comment être un artiste engagé quand je sais pas vraiment quoi penser? Tout ce qui est sûr, c'est que je suis français, que mes grands-parents ne l'étaient pas. Mais ce qui compte, c'est plutôt l'arrivée ou la ligne de départ. Et putain, ce que j'aime la France, pour son histoire, pour ses châteaux, pour ses cathédrales, pour sa campagne, pour sa culture, pour ses montagnes. Eh ouais. Mais on se bouffe entre nous comme des cannibales. Tous dans le même bateau, ça c'est capital. Plus de nuances que du radical. Tous cachés derrière une barricade. Tout le monde sait tout, hein. L'estime de soi est haute. On rejette la faute sur l'autre, mais les autres, c'est nous. Et paraît qu'il y a le feu à la chapelle, le pays de Jeanne d'Arc ou de Jamel. Paraît qu'être gris, c'est notre fierté, qu'on est les rois de la liberté. Dans le grimoire, il y a les Gaulois, il y a les chevaliers, mais dans la cuisine, il y a ma grand-mère et ses tatouages berbères effacés. Des fois, je me dis, viens, je me casse, je prends une maison au bord d'un lac. Et puis le soir, devant la glace, je me ravise de partir comme un lâche. Parce que je crois que j'aime ce pays malgré tout. Quand j'en pars, je ne pense qu'à mon retour. Elle est belle, ma France et son terroir. Même si c'est pas moi qu'elle voit dans le miroir. Je me dis qu'on pourrait le faire, briser le plafond de verre. Au lieu de pointer les différences de chacun, se concentrer sur tout ce qu'on a en commun. Les parties de Monopoly, pleurer sur les sons de Johnny, écouter les conseils des vieux, la Bretagne même s'il pleut, prendre plein de médicaments,
l'aspirine et le doliprane,
Omar Sy et Zida,
dire que c'était mieux avant, la vie en rose d'Edith Piaf, les perles de pluie de Jacques Brel, faire des sculptures avec le truc rouge qu'il y a autour du Babybel.
L'heure de l'apéro,
pas assumer la gueule de bois,
râler quand il fait trop chaud, ouais.
Râler quand il fait trop froid.
La France, je l'aime, je veux encore d'elle, français de la tête aux orteils, mais toutes ces erreurs qui nous précèdent, voilà pour elle un beau poème.
Sacré bordel.
Une belle chanson. Belle chanson, forcément. Pour moi qui suis français, ça dit beaucoup de choses. Et je pense que les auditeurs qui viennent de France et qui sont des auditeurs CFAQ, qui entendent ces mots-là aussi, se posent certainement beaucoup de questions aujourd'hui.
Ouais.
Mais comme je te disais hors antenne, pas de regrets pour moi. Voilà, je suis heureux d'avoir franchi l'Atlantique.
T'es le bienvenu au Québec.
Et je ne le refranchirai plus. C'est déjà l'avion. Non, voilà. Okay. Je suis trop bien ici. Et puis en plus, j'ai rencontré ma fleur des neiges ici. Donc, voilà. Voilà. Donc, bref. Jonathan,
oui,
tu es président du SARUS. Pourquoi es-tu devenu président du SARUS? Qu'est-ce qui t'a motivé d'abord à t'impliquer dans ce syndicat? Enfin, tu t'es levé le matin et tu t'es dit, tiens, je vais être président du SARUS aujourd'hui.
je me suis toujours levé, peut-être un peu trop, le matin, en voulant m'impliquer un petit peu partout. Je me souviens au cégep, j'étais président de l'association étudiante du cégep de Sherbrooke que je salue, puis où j'ai fait mes premiers pas dans le monde associatif, dans le monde où on représente hein, des gens. C'était des étudiants du cégep de Sherbrooke qu'on représentait à l'AEX, l'association étudiante. Donc, quand arrivé à l'université, je me suis dit où est-ce que je peux faire une différence, où est-ce que je peux aider les gens, puis. J'ai moi-même été très rapidement auxiliaire de recherche, donc il y a un professeur qui m'a donné ma chance très tôt au début de mes études de premier cycle, ce qui m'a permis de découvrir le monde des auxiliaires de recherche, de découvrir le syndicat. L'ancien président, Nicolas Proulx, m'avait proposé de joindre le syndicat. J'avais demandé qu'est-ce qui était possible. Puis depuis ce temps-là, j'ai jamais lâché le syndicat, j'ai jamais quitté. Je devrais peut-être le faire éventuellement bientôt.
Pourquoi?
Suite à des nouvelles études, justement, j'ai eu une réponse positive à McGill. J'attends la réponse de l'Université de Sherbrooke. Donc si je dois changer d'université, bien...
Ah oui, forcément, oui, tout fait.
Je vais devoir faire une transition à la présidence beaucoup plus rapide.
Bon, on va croiser les doigts pour que tu restes à Sherbrooke. Hein.
Exactement.
Entre les deux, si les deux te disent oui, Sherbrooke.
Oh, Sherbrooke, évidemment, voilà. Toujours. C'est tellement belle l'Université de Sherbrooke. Là, puis, si je reste à Sherbrooke... Par contre, c'est sûr que je ne resterai pas encore des années. De toute façon, un renouvellement, c'est toujours bon, mais ça va me laisser peut-être une année pour faire la transition tranquillement, puis tout ça.
Ouais.
Donc, je suis arrivé, je n'ai jamais quitté parce que c'est stimulant, parce qu'il y a toujours des progrès qu'on peut faire, toujours des améliorations qu'on peut faire. C'est le SAREU, c'est comme... c'est un syndicat, mais c'est un peu une vision entrepreneuriale hein, parce qu'on peut toujours développer des nouvelles activités, des nouveaux services, toujours mieux communiquer, toujours faire plus. Il y a toujours du nouveau à faire. Donc c'est vraiment motivant. Puis,
La question sociale, c'est important pour toi?
Oui, ça a toujours été important pour moi. Je me souviens quand j'habitais à Magog, il y a plusieurs années, j'étais allé à pied pendant une tempête hivernale pour aller rejoindre le groupe qui s'appelait les Oubliés de l'autobus pour avoir la question du transport collectif en région de Memphremaga qui est presque absent, très difficile. Puis je me souviens, je militais pour ce groupe-là et on faisait des réunions en personne dans ce temps-là. Puis j'étais le plus jeune à participer à ça. Donc, à l'école secondaire également, j'étais impliqué dans l'Amnesty International, dans toutes sortes de comités. Donc oui, la question sociale a toujours été importante pour moi. Je pense que c'est fondamental. C'est une question qui réunit toutes les couches, tout le monde dans la société, toutes les générations, tous les métiers. Je pense que c'est au cœur de notre vie sociale parce qu'on vit justement en société. Puis j'essaie d'y apporter mon humble contribution. Puis le syndicat, c'est un des moyens de le faire.
Est-ce que cette question sociale, les difficultés sociales qu'on perçoit de plus en plus dans la société aujourd'hui, est-ce qu'elles arrivent et qu'elles débordent aujourd'hui, y compris dans l'enceinte universitaire? On voit avec des associations que j'avais reçues, l'association Frigo, par exemple, qui lutte contre le gaspillage alimentaire et qui permet de se battre aussi sur la question sociale. Est-ce que c'est quelque chose aujourd'hui qui commence à s'étendre dans le monde étudiant, chez les étudiants?
Je pense que oui, c'est certain que les conditions sociales dans lesquelles on vit impactent nos études. Si on revient à la maison puis on n'a pas un bon climat, bien, ça va être difficile de se prendre justement un emploi d'auxiliaire de recherche à côté. Ou au contraire, peut-être qu'on va être forcé de travailler trop d'heures puis on va avoir des moins bons résultats scolaires parce qu'on va travailler beaucoup plus pour payer nos frais de subsistance. Fait que je pense que oui, mais l'université, c'est un formidable ascenseur social. Puis moi, je crois, ma valeur première dans la vie, c'est l'éducation. Je crois vraiment profondément à l'éducation. L'éducation m'a tout donné. Je crois vraiment à ça. C'est incroyable, la nécessité de l'éducation pour la société. Puis, pour garder cet ascenseur social-là, il faut essayer de résoudre les inégalités le plus possible à l'université. Puis les associations étudiantes, les syndicats, les mouvements étudiants, tout ça, c'est essentiel pour que cet ascenseur-là social, qui est l'université, soit accessible à tout le monde.
Est-ce qu'après l'université, la question sociale sera quelque chose que tu garderas en toi et qui sera une motivation, une implication pour d'autres engagements futurs?
Oui, je pense que oui, je suis toujours quelqu'un qui va souhaiter être engagé dans la société de toutes sortes de manières. J'étais sous tout conseil d'administration aussi, des coopératives, des fondations. Je pense que c'est extrêmement important de s'impliquer, puis c'est ce qui donne un sens à la vie. Je vais avoir un travail qui a du sens, évidemment, mais de continuer à s'impliquer, au-delà du travail, je pense que c'est essentiel pour moi, puis je vais continuer de le faire.
Tu as quel âge?
26 ans déjà.
26 ans, voilà. Et comment tu regardes un peu toutes ces années passées dans le monde étudiant, cette implication, tout ça, quel regard tu en tires finalement de tout ça? Est-ce que tu es heureux, je veux dire? Est-ce que ça t'a donné de l'espoir pour l'avenir ou au contraire? Parce qu'il y a des gens que ça désespère des fois, l'engagement, qui se découragent.
Très belles années, ça m'a tout donné. Je dis que c'est les plus belles années de ma vie, j'ai pas encore vécu la suite.
Mais... oui, parce qu'il y a peut-être de très belles à venir aussi.
Mais c'est vraiment, je me souviens au cégep, c'est incroyable l'implication, comment je m'amusais là-dedans. C'était pas un fardeau, c'était vraiment un plaisir. Puis j'ai tellement appris aussi à gérer une organisation, une association étudiante, un syndicat. On apprend des choses qu'on apprendrait peut-être dans 10 ans sur le marché du travail, quand on atteindrait enfin des postes de gestion.
Ben, c'est là, formateur. Ouais.
On peut faire de la gestion dès maintenant, donc c'est très formateur, puis ça donne. Ça donne espoir pour l'avenir parce que je vois des gens engagés au quotidien, les étudiants de l'Université de Sherbrooke sont extrêmement engagés, puis ça donne espoir pour le futur.
Belle université ici.
Très belle université, une université verte. On voit le Mont-Bellevue juste à côté, je fais du ski de fond beaucoup. J'adore Sherbrooke parce qu'on a tous les avantages de la grande ville, dont l'Université de Sherbrooke, avec la nature à proximité.
C'est vrai. C'est une très belle région, très belle ville.
C'est le mode de vie idéal pour moi.
C'est très agréable et c'est vrai que ce campus est vraiment quelque chose d'unique. C'était un plaisir de te recevoir, Jonathan. Je ne sais pas si c'est la dernière émission, parce que c'est vrai que là, on arrive quasiment à la fin de l'année maintenant. Voilà. Même s'il y a peut-être d'autres projets qui vont se monter, etc. Enfin, voilà. On en reparlera. Mais en tout cas, c'est un plaisir aussi pour moi de faire ces missions sur ces facs. Voilà. Très belle radio. Un plaisir de recevoir les invités que j'ai reçus cette année, qui ont été... Alors des associations étudiantes qui sont venues, je parlais de Frigo par exemple, l'association LGBTQIA+, qui est venue également, des professeurs d'université qui sont venus, comme François Côté, qui est maintenant procureur, attention, c'est pas rien, Guillaume Rousseau qui est venu également deux fois, lui, hein, voilà, il fait le buzz en ce moment, hein. Voilà, donc... Non, ça a été vraiment un plaisir, etc., d'entendre toutes ces choses, tous ces gens qui ont apporté plein de choses. Et Jonathan, c'était super de pouvoir terminer cette session d'hiver, comme on dit.
Hein, oui, c'est ça. Cette session
terminer d'hiver. Cette session d'hiver avec toi, président de cette association étudiante, pour nous parler de tout ça. C'était vraiment important aussi de l'entendre. Je remercie mes auditeurs et je vais mettre une petite chanson que j'aime bien. On va parler un peu de la France tout à l'heure. Une petite chanson que j'aime bien et qui est une chanson de Marc Lavoine.
Oh, on écoute ça.
Et qui s'appelle C'est ça la France. Alors, c'est plus vraiment ça, mais ça a été ça. Voilà, ça c'est le vieux de 54 ans qui parle. Mais voilà, ça reste quand même ce petit souvenir. Voilà, je voulais la dédier un peu à tous les auditeurs de ces facs et la dédier à tous mes invités, avec mon horrible accent français, voilà, qui les a invités et reçus ici. Jonathan, vraiment, merci beaucoup.
Très bel accent, merci pour l'invitation, Bruno, merci pour tout.